at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait, wait, wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une Heure et des Pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Avant de commencer, petit point promo en vous rappelant que notre campagne de financement est lancée. Si vous souhaitez et pouvez nous soutenir financièrement, vous trouverez le lien vers notre Ko-fi dans la description de l'émission ou sur nos réseaux sociaux. En nous aidant mensuellement, vous aurez accès aux émissions en avant-première ainsi qu'aux versions longues et petit à petit à d'autres contenus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Ash, Anna, Lazare et Léa. Comment allez-vous ?
Hello.
Salut.
Ça va super bien.
Pas trop mal.
Ça va super bien, merci.
Eh bien, tant mieux. Et ce mois-ci, on reçoit Alvin Adaden, consultant indépendant dans les jeux vidéo et ancien journaliste JV. Bonsoir à toi et merci d'être parmi nous. Comment vas-tu ?
Ça va très bien, bonsoir, merci de m'accueillir.
Alors, c'est pas par despotisme promis, mais je vais ouvrir le bal de ce soir avec ma chronique en vous parlant de l'appropriation des espaces socio-ludiques et comment le public joueur transforme le dialogue en un outil de progression. Sur ce titre, je vous l'accorde très bon peu, j'ai prévu de vous parler aujourd'hui d'un petit jeu pas très connu sur lequel personne n'a jamais fait d'analyse, essai entier et autres ambitieuses approches. Oui, je vais vous parler d'Outer Wilds du studio Mobius Digital. Alors non, j'ai pas la prétention de produire quelque chose qui donne matière à réflexion sur les grands messages du jeu, qui retrace l'histoire du développement ou autres truculentes anecdotes. Je vais plutôt vous raconter, plus modestement, mon expérience ou un fragment de cette dernière. Il y a quelques temps, je lance pour la première fois Echoes of the Eye, le DLC d'Outer Wilds, sorti en 2021. Malgré la méthodologie et la posture d'enquête initiée par le jeu de base, dont je sais que je ne vais pas pouvoir me défaire, je me lance ou j'essaye en essayant de faire tabula rasa pour profiter encore une fois du sentiment vertigineux de l'inconnu. Ceci dit, la découverte a ses limites, et après plusieurs heures d'exploration, d'énigmes, de mystères, force est de constater, je pense que je suis bloqué et je ne sais pas comment progresser. J'ai les ingrédients, du moins en partie, j'ai des outils de cuisine, alors désolé les métaphores culinaires en général c'est plutôt efficace, je sais à peu près la recette, mais il me manque quelque chose et je ne sais pas vraiment quoi. Je me demande alors comment chercher de l'aide sans me faire divulgâcher. Je tâtonne à écrire très précisément les éléments que je pense ne pas savoir résoudre en l'état. Je cherche un coup de pouce, mais pas la solution. J'ai envie d'être celle qui aura un eureka, qui reliera le point A au point B, et ainsi de suite. D'une manière ou d'une autre, j'atterris dans le chaleureux endroit que sont les forums jv.com. C'est en effet pas spécialement le site où je pensais arriver en partant de mes recherches, mais on va dire que le sentiment de surprise est plutôt cohérent avec le jeu. Je suis cependant étonnée de constater des échanges tout à fait uniques. Devant mes yeux et au fil de ce poste que j'avais trouvé, se déroule un dialogue constitué de très nombreux messages. Plusieurs membres posent des questions à l'autoriste initiale du poste afin de questionner non seulement sa progression, mais aussi la compréhension des éléments et informations déjà acquises. L'autoriste alors fait un sommaire des éléments compris, des hypothèses, ni validées ni invalidées par les autres membres, et ce poste de forum devient le théâtre d'échanges entre plusieurs personnes qui tâtonnent pour elles-mêmes aider l'âme en peine avec un objectif assez clair, orienté, suggéré, mais ne pas gâcher le sentiment de déclic et de découverte. Bref, j'assiste à un exercice de maïeutique à un endroit où je ne pensais pas forcément cela possible. On constate cependant que les retours sont différents selon les membres, assez logiquement. Les logiques qui sont déployées font transparaître des questions qui sont celles des personnes qui n'ont pas découvert tous les éléments du jeu en même moment, ni en même temps. Alors, c'est induit par des biais qui sont fatalement inévitables, mais qui sont un reflet de la non-linéarité du jeu et des approches différentes propres à chacun et à chacune. J'essaye alors de survoler sans complètement tout lire par sécurité et je repars avec ce que je veux, ce qui me débloque par ailleurs. Une fois le DLC fini, je suis titillée par cet échange. Je me remets à chercher, à parcourir les forums du jeu sur différents sites, je découvre un nombre incalculable de réitérations de cet événement. Pas les mêmes situations, pas les mêmes personnes, mais très souvent cette même manière de faire, de procéder, de dialoguer. Cet épisode m'a fait prendre conscience de la place que pouvait avoir la joueuse dans cette expérience, en particulier pour ce jeu, ou plutôt de la place que s'étaient attribuées les joueuses inconsciemment. Ce que je n'avais jusqu'alors jamais vu pour d'autres jeux de cette manière. Il est facile d'imaginer que les membres impliqués dans cette conversation aient cherché à aider aussi précisément cette personne dans une démarche un petit peu d'autoprojection. Et elles auraient aimé, dans cette situation, ne pas être spoilées, volées de la découverte. Par ailleurs, le post initial présentait des balises de spoilers sur les propres hypothèses de la personne, ce qui indiquait qu'il y avait également la pensée ou la possibilité qu'une autre personne pourrait passer derrière et se reconnaître dans le problème rencontré, sans pour autant avoir des éléments qui lui seraient dévoilés. Pourtant, dans cette démarche qui est un petit peu de l'auto-introspection, émerge une forme de rapport social plutôt bienveillant. Ce sentiment de questionnement, d'une carence aux informations dans des situations propres au jeu, a créé quelque chose qui, ironiquement et de manière incidentelle, soutient le narratif d'Outer Wilds. La mise en exergue de l'apprentissage, la protection et la valorisation de la découverte, le dialogue entre les personnes, l'entraide. Alors je ne cherche pas à surintellectualiser le jeu, d'autres le font déjà bien mieux que moi, ni à le dédouaner si des personnes ont senti une réelle carence d'informations ou des défauts dans la distribution ou l'agencement de ces dernières. Je doute par ailleurs qu'il s'agissait d'une intention assumée. Le jeu original, pour rappel, est sorti sur Epic avant de sortir sur Steam à l'époque, qui n'avait pas d'espace de discussion comme c'est le cas sur Steam. Le potentiel d'échange entre les personnes était assez réduit. L'intégration de la personne joueuse lors de la progression dans une expérience ludique n'est pas nouvelle dans le jeu vidéo. Nous avons cela avec des interventions extérieures par le biais de l'histoire des solutions de manière générale, un sujet que Alvin maîtrise très bien, mais aussi des mécaniques propres qui sacralisent un espace laissé à l'autre, voire les mettent en scène. Je pense par exemple au jeu FromSoft avec le système des messages au sol, le système des marques d'invocation ou les ombres que l'on peut voir des autres personnages. Il y a également des jeux comme Death Stranding qui ont des mécaniques qui sont propres à celles des autres joueuses avec le partage des infrastructures qui sont réalisées, qui peuvent être retrouvées dans les différentes parties. Attention, je ne dis pas du tout qu'il faut limiter le système d'indices, d'aides et globalement des éléments qui favorisent la guidance dans les jeux, notamment pour des jeux qui ont ces aspects très forts de découverte de mystères. Mais j'ai plutôt tenté au fil des mois de militer pour l'inverse lors de mes chroniques. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant de constater que malgré l'objet imparfait que pouvait représenter un jeu, ces imperfections, elles laissent des fenêtres. Elle cause des événements qui impliquent et connectent les joueuses entre elles. Ainsi, la personne joueuse peut devenir un potentiel élément décisif dans l'expérience d'un autre, inconsciemment. Cet événement, il est vrai, propre au jeu, me semble être une énième preuve que, comme sur un ensemble d'autres sujets, le jeu vidéo n'est pas un produit de consommation exclusivement à sens unique. Il peut créer des ponts, et de ces imperfections peuvent naître des interactions humaines qui peuvent cristalliser des expériences de jeu singulières. Je sais que c'est relativement une banalité, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant sur ce point. En bref, d'une manière ou d'une autre, la personne joueuse arrivera toujours à se frayer une place dans un jeu, à s'approprier, à détourner des outils qui peuvent transformer l'expérience ludique de soi-même ou celle d'autres personnes, et c'est une des forces du jeu vidéo. Ce médium pluriel et muable ne peut exister sans les personnes de l'autre côté de la manette, ou du clavier souris, ou l'écran tactile, ou tout autre contrôleur alternatif. Léa, tu voulais réagir ?
Oui, alors. Ça, c'est une expérience, comme je suis assez férue de jeux à puzzle, l'expérience de chercher en ligne des indices sans se faire spoiler la solution, je connais très bien, c'est vraiment la croix et la bannière. J'en ai fait un peu l'expérience très récemment sur Blueprints, où il y avait genre un puzzle, où il y avait un truc, où je comprenais globalement comment il fallait résoudre, mais il me manquait juste un mot, un truc à la con, et j'ai essayé de trouver des formulations sur Google pour faire en sorte de ne pas avoir la solution qui sort, et c'était vraiment difficile, et malheureusement j'ai été spoilée d'un petit détail, mais malgré tout ça m'a vraiment frustrée, donc j'ai beaucoup d'empathie avec cette situation. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai la patience d'écrire un post sur un forum et d'attendre après les réponses des gens. C'est probablement plus safe. Et je n'ai pas non plus envie de demander à ChatGPT non plus. Donc voilà, je comprends le struggle. Je pense que ce serait intéressant si plus de jeux avaient des systèmes d'indices intégrés. Récemment, il y en avait un que j'ai joué, d'ailleurs que je crois que j'ai mentionné dans ma dernière chronique peut-être, qui s'appelle The Root Trees Are Dead, et c'est pareil, c'est un jeu d'enquête, et il y a un espèce de petit système d'indices, donc du coup on clique sur un truc et le jeu nous suggère ce qu'on doit faire Voilà, une étape, ce qu'on pourrait faire sans trop en révéler, bien sûr. Et c'était pas trop mal fait. Et dans le cas de ce jeu, pour moi, c'était vraiment juste à la fin du jeu, il me manquait genre un élément, quelques éléments d'information. Mais genre, c'était vraiment trop, trop bête. Et j'avais l'impression d'avoir tout retourné. Et donc, je clique ce bouton d'indice. Et le jeu me dit « Avez-vous bien lu ce document-là, le premier qui vous est donné dans le jeu ?» Et j'étais en mode « Mais il est trop nul, cet indice. » C'est vraiment, il te dit d'aller voir le premier truc que le jeu te donne. C'est complètement pourri. Et en fait, j'ai regardé. Effectivement, cette information était là depuis le début. J'étais juste complètement passée à côté comme une nullos. Donc voilà, c'était mon expérience avec les systèmes d'indices.
Effectivement, c'est vrai que la problématique des indices, elle est assez complexe dans le jeu vidéo, parce que c'est très difficile d'imaginer comment bien accompagner le joueur ou la joueuse. Et c'est vrai qu'il y a aussi, ce dont tu parles, c'est que il y a une posture additionnelle, il y a une démarche additionnelle quand on recherche des réponses ou un petit élément en particulier, en gardant la balance de juste l'élément et pas de l'expérience de la personne, pour être complètement... pour être complètement spoilé, et ça rajoute toute une démarche. Il faut réfléchir à comment formuler ça, ou comme tu le dis, à réfléchir à créer un événement, une discussion, où il faut répondre à des personnes, et ça, c'est un layer qui s'ajoute au-dessus de l'expérience de jeu, et qui sort du jeu, et qui en même temps, il a clé, enfin une clé parmi d'autres. Anna, tu souhaitais aussi réagir ?
Oui, tout à fait. Bah déjà, merci beaucoup pour ta chronique, je la trouve vraiment très cool, et j'apprécie bien l'idée des forums que tu soulèves, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que ça fait vraiment partie de l'expérience de jeu, finalement, pour certains et certaines d'entre nous. Je sais que moi, j'ai tendance à aller sur les forums un peu, parfois même sans jouer à un jeu, juste par curiosité, en fait, pour voir un peu ce que les gens disent du jeu, pour écouter un petit peu leurs ressentis, voir comment ils ont vécu l'expérience. Mais alors, quand je le fais à titre personnel, souvent, et je me confie à vous, c'est quand je suis dans un jeu dans lequel il faut faire des choix. Et en fait, je ne veux pas prendre de décision qui pourrait nuire à la suite de mon aventure. Donc souvent, je me réfère au forum en essayant de voir c'est quoi le meilleur choix à faire sans trop me spoiler. Donc généralement, je m'arrête aux toutes premières discussions et je me dis « Ah, donc finalement, il faut que je fasse plutôt ça ». Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça assez fun, en fait, d'aller regarder sur les forums pour ça. Et toute la difficulté, c'est effectivement de ne pas se faire spoiler l'histoire. Donc c'est un peu le risque. C'est accepter que après, bah, si t'es allé chercher trop loin, bah, du coup, voilà, t'as plus trop de mystère. Mais j'avoue que pour moi, ça fait vraiment partie de l'expérience de jeu. Je trouve que c'est assez incroyable ce qui se passe sur les forums. Et en plus, aujourd'hui, il y a des jeux dans lesquels on perd un peu ça. En fait, on sait jamais trop où aller pour retrouver ces espaces d'échange et tout. Et du coup, bah, j'ai tendance vraiment à me perdre en fait dans les fins fonds d'internet, à me retrouver vraiment sur des sujets de discussion complètement random en ayant cherché à la base un jeu. Et du coup voilà, ça m'a rappelé ces souvenirs, et je trouve que c'est vraiment très cool d'évoquer le sujet.
Et H, enfin, je te donne la parole.
Oui, désolé d'avoir pour le micmac des emojis. Merci beaucoup pour la chronique, et en plus j'allais dire quelque chose qui rejoint un peu ce que disait Anna. Je trouve ça trop, trop intéressant comme ta chronique souligne le fait que, comment dire ça, la séparation entre ce qui est dans le jeu et ce qui n'est pas dans le jeu est en vérité super flou, ce qui fait partie d'un jeu vidéo, ce qui ne fait pas partie du jeu vidéo, et que typiquement, c'est tous les systèmes d'indices qu'on voit apparaître aujourd'hui. Au final, c'est vraiment juste l'intégration dans le jeu de quelque chose qui était en dehors du jeu juste avant, et pour faire une expérience, hein, voilà, pour s'assurer que sur là aussi, il y a la meilleure expérience, et c'est clairement une bonne chose. Et en même temps, comme... Dans l'autre côté, tu soulignes comme un jeu vidéo peut façonner toutes les discussions qu'il va y avoir autour de lui, et comme elle se réintègre, dans le jeu, donc avec les espèces de théorisation autour de Outer Wilds. Moi, je pense par exemple, on parlait un peu de Souls. Pour moi, les Souls, un Souls, c'est impossible de comprendre tout l'or en tâche humainement solo d'aller essayer de récupérer tous les objets et de lire tous les lores et de relier tous les points pour essayer de comprendre toute l'histoire qu'il y a derrière. Je pense que c'est c'est humainement une tâche très dure, et que justement, au final, les discussions qu'il y a derrière le jeu, que ce soit directement sur Steam ou sur tous les forums qu'il y aura autour, etc., c'est un truc qui est déjà intégré dans le jeu, dans le base, et une partie de l'expérience de base, et du coup, voilà, je trouvais ça très cool.
Pour rebondir un petit peu sur la partie des sauts, je crois que c'était Miyazaki directement qui expliquait à un moment, quand, sur l'énième débat sur le rapport à la difficulté, etc., qui expliquait que bah, pour lui, c'était déjà intégré des Demon's Souls sur le fait que avoir accès à des aides de la part d'autres personnes, c'est déjà une forme de feature pour lui d'accessibilité, ce qui peut être sujet à débat, mais qu'en fait, ils ont réfléchi au jeu de telle sorte à laisser de la place aux autres personnes. Et je trouvais que c'était intéressant dans la manière de penser, parce que je pense que la manière de voir du world building, d'appréhender le système de quête, effectivement, des fois, il faut se cacher derrière une fontaine ou se mettre dans un cercueil et ça te crée un événement auquel tu t'attendais pas, mais qui est super important. Ça, effectivement, tu ne peux pas forcément le deviner. Mais en fait, c'est quelque chose que eux-mêmes ont intériorisé potentiellement à différents degrés et en fait se disent potentiellement, bah, effectivement, les gens vont discuter entre eux, les gens vont se laisser des messages au sol, les gens vont échanger. Et je trouve que c'est intéressant parce que de loin, ça peut paraître des séries extrêmement austères où tu te débrouilles tout seul, etc. Mais en fait, bah, c'est pas le cas, t'es pas seul, c'est juste que c'est présenté de manière assez différente. Mais ça rejoint un petit peu ce dont on avait discuté lors d'une chronique précédente. Eh bien, du coup, Ash va ensuite nous parler des créateurs de personnages et du morcellement des corps.
Oui. C'était plus... Alors, il y a un grand titre pompeux, mais c'était plus une petite réflexion que je m'étais faite il y a quelques temps où j'étais plongé dans Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpunk, qui est un recueil d'essais qui date des années 80 et qui a gardé un statut un petit peu culte. Il tente de questionner, de donner plein de perspectives sur l'explosion de l'informatique, des réseaux, mais aussi de l'imaginaire cybernétique, cyberpunk, qui se développe en même temps dans ces années 90. Bon, c'est rempli de grands noms qui restent un petit peu après, côté universitaire, Sadie Plant, Nick Land, Vivian Sobchak. Et il y a un texte en particulier, qui n'est pas le plus connu, mais qui m'a beaucoup fait tiquer. Dans la génération récursive du cybercorps, alors oui, il faut des titres ronflants, mais vous inquiétez pas, tout va bien, Kevin Robbins défend que, bon, vous savez, dès qu'il y a un nouveau média qui apparaît, il y a un nouveau langage qui correspond et qui se met à se créer. Par exemple, avec l'informatique et le jeu vidéo, il y a tout un langage des avatars et de chat et d'interaction que votre grand-mère ne comprend pas. Eh ben, ce langage, qui a l'air tout neuf et très spécifique à ce média-là, il est en fait très très fortement influencé par les langages des médias précédents. Ainsi, pour Robbins, le langage du cinéma était très moderniste, on voyait ça directement jusque dans les types de corps qui étaient mis en avant. Il y avait en gros 2-3 archétypes dans le cinéma hollywoodien, et tous les acteurs, actrices, s'y rapportaient plus ou moins directement. Et puis arrive la télé. Et avec la télé, il y a des séquences vidéo beaucoup plus courtes, 5-6 minutes, entrecoupées de pubs, et puis surtout on a le zapping, on passe d'une chaîne à l'autre très rapidement. Donc chaque séquence doit être immédiatement identifiable pour capter l'attention du spectateur. Et du coup, elle se met à être plus directe, flashy, à sursignifier tout ce qu'elle a à dire. C'est le classique de la série le soap opéra qui est tout de suite identifiable, la série, la pub qui est très très flashy, qui dit très vite ce qu'elle veut dire et tout. Et de la même façon, on met en avant des corps beaucoup plus divers, mais beaucoup plus exagérés aussi. Ils doivent être reconnaissables du premier coup d'œil. Des corps souvent ultra virils ou ultra féminins, ou alors des corps gros et hideux quand on veut s'en moquer. Donc il y a des corps divers, mais c'est pas forcément qu'une bonne chose. Des corps qui sont morcelés par le zapping et qui doivent être reconnaissables en un clin d'œil. Et c'est ce langage-là qu'il voit se répéter dans la culture informatique et gaming naissante à l'époque. C'est drôle parce qu'on est encore en 1995. On est au balbutiement de la 3D temps réel, avant les premiers MMORPG. Robbins, là, il parle plus de la façon dont on se décrit dans des interfaces de roleplay complètement textuelles en ligne, à l'époque, ou alors à l'imagerie ultra-sexualisée qui se développe dans le jeu vidéo, sur les jaquettes et tout. Et pourtant, on a l'impression qu'il parle déjà des outils de création de personnages modernes qu'on connaît bien, ceux qui nous permettent d'assembler des avatars en choisissant une à une chaque partie et en les assemblant comme des Lego. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que ce fait de recréer son corps dans un avatar assemblé de plein de différents morceaux, on a l'impression que c'est un truc super caractéristique du jeu vidéo. On a en tête l'image des lobbies de World of Warcraft, de Second Life ou plus récemment de VRChat, avec tous les corps différents bariolés qui se mettent à côté et qui sont en même temps souvent très très, comment dire ça, très très exagérés. Or, bah, l'omniprésence de la création de personnages dans le jeu vidéo, c'est juste que le média, il s'est branché sur un langage, celui de la télé, qui était déjà omniprésent à l'époque, et une façon d'expérimenter la vie sociale et les corps qui étaient déjà omniprésents. Et je pense que ça permet... Donc déjà, ça, je trouvais ça une petite remarque intéressante. Et puis en plus, ça permet aussi, je pense, d'approfondir notre lecture de pourquoi est-ce qu'il y a une imagerie aussi objectifiante qui s'est développée dans le jeu vidéo, plus à un niveau psychologique. Parce que les masculins, ils disent qu'ils veulent des héros baraqués pour s'y identifier, ou alors des héroïnes sexy pour les mater. Mais à un moment, pourquoi est-ce que ça les dérange pas de devoir mater des mecs baraqués ou d'être obligés de s'identifier à une meuf sexy? Alors souvent, on répond ça en disant « Ah là là, ah là là, vous dites ça, mais ça veut dire que vous êtes un peu gay ou que vous êtes un peu trans, ah, c'est ridicule. » Et en vrai, bon bah, ce serait bien d'arrêter de se moquer d'eux parce qu'ils sont potentiellement un peu LGBT. Surtout, c'est pas ça leur souci. À partir du moment où on admet que les corps sont virtuels, qu'on peut les composer comme on veut, que c'est des corps cyborgs, bah y a une anxiété qui se crée chez eux. Le corps veut plus rien dire, le homme et femme veut plus vraiment rien dire, c'est juste un assemblage comme un autre. Et du coup, ça crée une certaine anxiété qu'il faut calmer. Ça se passe déjà dans le cinéma de science-fiction de l'époque, il y a partout des corps ultra-genrés, ultra-féminins, ultra-virils, pour chasser cette anxiété. Ou les Terminators, etc. Oui, tout est faux, mais on reste dans un monde de gros bonhommes et de femmes en bikini. Et c'est la même chose que font les masculins dans le jeu vidéo. Ils marquent un espace vierge, un espace un peu inquiétant qui est celui de du jeu vidéo, de la 3D, où bah, on n'a plus les marques habituelles des corps très genrés qu'on a chez nous, et aussi racisés et tout. Mais ils reviennent, et ils le marquent comme un espace à eux pour chasser toute cette anxiété-là. Et nous, on doit incarner cette anxiété. Merci.
Eh bien, du coup, on va pouvoir passer à toi, Léa, qui va nous parler de ruines.
Oui, absolument. Mes titres ne sont pas très pompeux, ils sont même un peu nuls. Mais voilà. Donc, quand on pense narration, on pense souvent cinématique, dialogue, structure en trois actes ou jeu d'acteur. Et pourtant, bien sûr, dans le jeu vidéo, la narration est d'abord véhiculée par la qualité d'une atmosphère, par l'expérience sensorielle et mécanique de l'exploration d'un espace virtuel sur lequel, typiquement, la joueuse essaie de revendiquer une forme de contrôle en perçant ses mystères, en le vidant de ses trésors ou de ses ennemis, ou bien en cartographiant les moindres recoins pour obtenir en vrai complétionniste obstiné le success team associé. Le jeu vidéo est ainsi rempli de ruines mystérieuses, de temples abandonnés, de vaisseaux fantômes, de bases dévastées, tous des terrains de jeu idéaux pour cette appétence naturelle qu'on a pour l'exploration, et ce probablement bien davantage que d'autres médias qui ne permettent pas aux spectateurs d'arpenter et de reconstituer par eux-mêmes l'histoire du lieu qu'ils occupent, comme une sorte d'urbex virtuel. Bien sûr, c'est aussi une question de contraintes technologiques. C'est difficile, en effet, de programmer des PNJ crédibles, et puis ça coûte cher quand il y en a beaucoup qui se baladent partout, et puis c'est aussi coûteux en temps de développement, en ressources, etc. Mais bon, au-delà de ça, il y a une vraie fascination pour les ruines, dans la vraie vie véritable, comme dans les jeux, qu'on retrouve dans presque tous les genres. En commençant par celui pionnier de l'horreur, bien sûr. Pour le jeu Forbidden Siren, par exemple, sorti en 2003, les équipes créatives se sont inspirées pour le village de Hanuda, du village fantôme de Laikyo, comme les Japonais appellent ce genre de ruines, du village donc fantôme de Nichitsu et de sa mine abandonnée pour capturer une authenticité locale un peu glaçante pour transformer le familier en malaise viscéral. Dans les jeux d'horreur, les ruines sont porteuses souvent d'un message d'alarme, avertissant les joueuses que ce qui est arrivé à ses occupants pourrait bien leur arriver aussi. Un monceau de cadavres horriblement défiguré ou bien un audiologue interrompu par un cri de terreur sont là pour nous dire « Ici, des gens sont passés et sont morts. Ils ont commis des erreurs. Ils ont violé l'ordre naturel et en ont payé le prix. Souhaites-tu vraiment suivre cette longue trace de sang sur le sol pour découvrir ce qui est arrivé à son contenant originel, quitte à potentiellement partager le même destin ?» Les histoires racontées par ces lieux vidés de leur vie sont aussi le vecteur idéal pour la fiction spéculative. L'effondrement de l'humanité est un thème récurrent, et le jeu vidéo est rempli de dystopies post-apocalyptiques. Des jeux comme Fallout ou The Last of Us nous invitent à traverser des lieux symboliques que nous connaissons très bien, que nous associons avec notre toute-puissance civilisationnelle, mais qui sont désormais envahis par les monstres, les fougères, et dans lesquels la nature, ou quelque chose de plus sinistre, a repris son droit. Un autre genre féru de ruines, le premier qui vous est probablement venu à l'esprit, je pense, est celui de l'action-aventure, bien sûr, comme les classiques Tomb Raider. Ici, les dangers existent toujours, mais la promesse de trésors enfouis est la récompense de notre exploration. Les joueuses se retrouvent souvent donc à détruire et à piller, pour leur survie ou leur enrichissement, sans trop de considération sur ce que disent ces jeux sur la valeur historique et culturelle des artefacts du passé. Bien que ces jeux n'incarnent pas exactement les idéaux de l'archéologie moderne, un certain enthousiasme un peu niche pour ces mondes digitaux a fait naître l'archéogaming, terme un peu fourre-tout qui regroupe à la fois les efforts pour déconstruire la structure interne des jeux, les efforts pour établir une interprétation historique des mondes virtuels en se basant sur leurs éléments architecturaux ou vestimentaires, ou bien les efforts pour utiliser le médium comme vecteur d'instruction et de reconstitution du passé. Aujourd'hui, de plus en plus de jeux nous invitent à voir les ruines comme des opportunités d'apprendre et de s'ouvrir à d'autres perspectives que la nôtre, jusqu'à intégrer ces principes dans les mécaniques mêmes du jeu. Par exemple, chaque ruine nomade dans Outer Wilds, que l'on cite encore, est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement mécanique du jeu et aussi sur les secrets de son univers que le peuple qui nous précède essayait lui-même désespérément de percer. J'ai aussi envie de mentionner ici Heaven's Vault, dans lequel on doit déchiffrer une langue disparue pour tenter de comprendre les origines de la civilisation dans laquelle évolue le personnage principal, qui est d'ailleurs archéologue. Enfin, les lieux abandonnés, quand on ne doit ni les craindre ni les exploiter, peuvent aussi être une fenêtre sur l'intimité d'autrui, à une échelle plus personnelle, qui joue sur notre curiosité, parfois un peu voyeuriste, et notre envie assez naturelle de fouiner chez les autres. On peut penser à des jeux comme Gone Home ou What Remains of Edith Finch, ou bien même Blueprints, des jeux dans lesquels on explore des lieux de vie plus récemment abandonnés, souvent d'ailleurs par des proches décédés, ou des proches dont le sort est le mystère qu'on essaye de résoudre en reconstituant leur vie, leurs secrets, leurs habitudes, etc. On nous y invite souvent dans ces jeux à interpréter ce qui nous est présenté, mais aussi ce qui ne l'est pas, ce qui hante les interstices, ce qui est non dit, et donc à reconstruire parfois de façon très personnelle certains pans de l'histoire du jeu, comme une sorte de collaboration narrative. Une ruine est finalement une sorte de vanité digitale, parfois sombre et effrayante, parfois contemplative et tranquille, parfois une promesse de danger ou de mort, ou bien de richesses enfouies, ou encore d'immobilité éternelle, hein. Memento Mori qui nous demande de plus en plus souvent de vraiment comprendre le passé et d'en tirer des leçons pour progresser. Une ruine est ce qui survit du passé et résiste au présent. Et pourtant, nos jeux et leurs ruines virtuelles ne sont jamais à l'abri de la disparition. C'est en effet un patrimoine culturel difficile à conserver, difficile à partager, difficile à exposer aussi, Et si ce sujet vous intéresse, je ferme donc cette chronique avec une recommandation, celle d'un long article d'un certain Jean Jouberton dans Point & Think intitulé « Le jeu vidéo a-t-il sa place au musée ?» Évidemment, je ne vous spoil pas la réponse à cette question.
Allez, je me lance. Non, c'est intéressant comme chronique. C'est vrai que c'est très évocateur, ce thème des ruines. Et c'est vrai qu'il y a ce mélange entre ce que ça raconte maintenant en racontant ce qui s'est passé avant, en tout cas en le faisant deviner. Et j'en ai un souvenir précis sur deux jeux, sur le fait que, évidemment, on est dans un jeu vidéo, donc tout est construit, tout a été placé là par des développeurs pour tant de réussir à faire croire qu'on est en train de découvrir un passé et qu'on est en train d'être le premier à voir quelque chose de très ancien et qu'on n'avait pas vu. Et j'ai souvenir sur ça de Tomb Raider Underworld, le dernier Tomb Raider classique qui avait été fait, qui, en faisant découvrir le Cambodge à ce moment où on a ce vrai waouh en arrivant quelque part. Et puis je pensais à Portal 2, qui, pareil, le fait très bien, où à un moment le jeu fait shifter et fait comprendre que une grande partie du complexe a été abandonnée depuis très longtemps. Et pareil, il y a toujours ce petit côté magique de « Ah, je suis en train de découvrir quelque chose d'ancien », qui n'est pas du tout ancien, parce que c'est un jeu vidéo et tout a été artificiellement construit. Mais voilà, ces moments où le jeu arrive à être intelligent pour nous faire sentir intelligent. C'est vrai que c'est un très, très bon sujet, le fait que c'est très évocateur de montrer le passé au présent de cette façon-là. Donc, plutôt un safe bet, si les développeurs nous écoutent.
Ouais, alors c'est un sujet que je n'ai pas abordé dans ma chronique, parce que de toute façon, enfin, je veux dire, on peut en parler pendant très longtemps, mais les questions aussi de comment on représente les autres cultures et un petit peu ces questions de tourisme culturel, etc. etc. C'est aussi des questions qui sont assez intéressantes, importantes, je pense, de la façon dont on dresse le portrait. Souvent, donc, du coup, on s'appuie beaucoup sur des stéréotypes, des clichés, des idées reçues sur des cultures dont on visite les ruines. Et aujourd'hui, il y a clairement une remise en question de ces représentations-là, qui est très, très encourageante, mais bien sûr, on est très loin d'être parfait.
Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions, je vais vous proposer une première pause musicale avec Mallrats, morceau composé par Jerry Martin pour l'OST des Sims 1. Thank you. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite l'entretien avec l'invité.
Alors, je vais aujourd'hui essayer de me glisser dans les chaussures de Mehdi qui ne peut hélas pas être avec nous ce soir à cause du travail. On lui renvoie toute notre force et notre soutien. Du coup, nous recevons Alvin Adaden qui est consultant indépendant dans les jeux vidéo et ancien journaliste JV. Salut Alvin.
Oui, rebonjour.
Du coup, est-ce que pour s'échauffer un peu et pour replacer un peu qui tu es, ce que tu as fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené à travailler en tant que journaliste dans le JV et particulièrement ce qu'on appelle soluceur, c'est-à-dire créateur de solus de jeux vidéo?
C'est venu assez tôt, je ne vais pas vous mentir. Je pense que comme tous les enfants des années 90, j'adorais les jeux vidéo. Je lisais plein de magazines de jeux vidéo de cette époque, du Kids Mania, des choses comme ça. Et vers 11-12 ans, j'ai commencé à faire mes propres solus de jeux sur des petits classeurs. On est en 2001-2002, Internet arrive assez vite derrière. Et pareil, à partir de 2002-2003, commencer à faire des petits sites amateurs, à contribuer à des collectifs de sites amateurs, faire des solus pour jeuxvideo.com en tant que contributeur. À l'époque, si tu envoyais une solus qui était reprise par le TAJV de jeuxvideo.com, tu pouvais recevoir un jeu neuf chez toi. Autant dire que quand on a 13 ans, recevoir un jeu à 60 euros contre 50 heures de travail, évidemment qu'on signe, évidemment qu'on fonce. Ces expériences-là ont un petit peu valé le coup, puisque quelques années plus tard, en fin de lycée, avant de faire la rentrée universitaire, je fais un stage d'été sur un petit site qui n'existe plus, qui s'appelle Tom's Games à l'époque. On est en 2007. Et à l'issue de ce stage d'été, et après une L1 qui se passe pas très bien, comme malheureusement trop de L1 force à eux, je suis rappelé par ce site-là. Le chef de rubrique de l'époque partait, et ayant été son seul stagiaire, on m'a proposé de reprendre son poste, et ça a été le début d'une carrière de 15 ans en journalisme jeux vidéo, et pas jeux vidéo. J'ai eu la chance, ça m'a permis, le jeu vidéo m'a amené au journalisme, puis m'a amené à du journalisme pas de jeux vidéo avant d'y revenir en 2016, où j'ai eu la chance de rejoindre jeuxvideo.com pour reprendre leur rubrique Solus et un peu boucler ma carrière, entre guillemets, sur le fait de revenir à ses premières amours. Ça voulait évidemment dire beaucoup d'être chez jeuxvideo.com et de réexercer ce métier de soluceur 10 ans plus tard dans ma carrière et de gérer ça sur un très gros site avec beaucoup d'enjeux passionnants à relever qui sont liés à jeuxvideo.com, au fait de bosser pour un numéro 1 et plus pour le Challenger et sur un monde du jeu vidéo qui, entre 2007 et 2016, s'est énormément transformé. Vous vous en doutez bien, et un monde des médias jeux vidéo qui lui aussi a changé du tout au tout.
Ok, je pense qu'on va t'embaucher pour faire les transitions parce que tu me tends la perche littéralement pour la prochaine question. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette évolution des solus de jeux vidéo, de leur apparition? Si mes souvenirs sont bons, je dirais que c'est des années 80 essentiellement à ce moment-là qu'elles se développent jusqu'à aujourd'hui.
Oui, il y a toujours eu, dès lors qu'il y a eu des jeux, il y a eu besoin de guides pour. Une anecdote qu'il faut savoir, par exemple, le studio de jeux vidéo Game Freak qui a fait Pokémon aujourd'hui, à la base, est un fanzine de Solus. Quand Satoshi Tajiri crée Game Freak, à la base, c'est pour se payer des parties de jeux d'arcade, il va écrire son petit magazine de Solus qui va vendre à Akihabara. Avec l'argent qu'il va gagner, il va pouvoir jouer à des jeux d'arcade, écrire d'autres guides, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est des années plus tard qu'il recycle la structure de Game Freak pour faire Pokémon. Donc comme quoi, ça peut vous amener très loin. Mais effectivement, un des points d'importance à l'époque, c'est qu'une Solus, ça se vendait. C'était de l'information qui avait beaucoup de valeur. Et dans un monde sans Internet, après avoir payé 500 francs son jeu, il n'y avait rien de pire que de ne pas pouvoir avancer dans son jeu à 500 francs, qui n'est ni repris ni échangé une fois qu'il est déballé. Dès lors, vous n'aviez pas d'autre choix que de passer au bureau de la presse pour bah, acheter un magazine de Solus qui coûtait entre 100 francs, voire plus. Des petits livrets imprimés qui étaient dédiés à certains jeux. Mais c'est vrai que l'âge d'or de la Solus, c'est vraiment les années 90 où bah, les jeux sont de plus en plus nombreux à sortir. On arrive quasiment à plus de 1500 jeux qui sortent par an dans les années 90, ce qui est très loin de ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'était déjà considérable. Et surtout, faire des Solus, c'est très intéressant, parce que du coup, on les vend. Et tous ces magazines qu'on a connus bah, dans les années 90-2000, avec différentes maquettes, différents tons, différentes de lignes éditoriales, réimprimaient plusieurs fois, plus ou moins, la même Solus. La Solus de Jatte & Daxter, je prends cet exemple-là, allait être dans le magazine officiel PlayStation, dans La Bible des Secrets, qui était un truc un peu, avec une maquette un peu masculine, un peu sérieuse, dans Astuce Mania, qui était un truc un peu plus orienté kid, avec une manette plus kid. Donc un freelance qui allait passer 5 jours à tabasser un jeu pour le finir le plus vite possible, son travail allait pouvoir être exploité dans plusieurs magazines, dans des services d'hôtel où bah, des comédiens allaient enregistrer et lire la Solus intégralement sur un serveur vocal pour qu'après les gens, en payant 56 centimes la minute, aille consulter entre guillemets la Solus en vocal. La Solus, elle allait pouvoir être mise sur des services Minitel qui, pareil, bah, décomptaient à la minute. Donc ça brassait un volume d'argent considérable à côté d'une presse jeux vidéo qui, là aussi, brassait des sommes considérables à l'époque. Cet âge d'or avec beaucoup d'argent dans la presse jeux vidéo a été très court comparé au reste de l'histoire de la presse, parce que bah, la presse jeux vidéo n'a pas autant d'existence que la presse en général, mais avant l'explosion de l'Internet pour tous et du gratuit pour tous sur Internet, bah, finalement, a pu vivre des années très 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 lucratives. J'ai souvenir de, je pense, aux Console Plus au début des années 2000, c'était quelque chose comme 200 000 exemplaires par mois. Il faut se dire que 10 ans plus tard, quand Merced ferme, donc c'était ceux qui faisaient Jeux Vidéo Magazine et plein d'autres magazines comme Joystick, PC Jeux, ils en vendaient quelques milliers d'exemplaires par mois 10 ans plus tard. Donc le summum, entre guillemets, a été atteint très rapidement et la transition web a été nécessaire, évidente, il fallait la faire. Les joueurs ne voulaient plus acheter de magazine, on n'allait pas les forcer à le faire. Mais évidemment, ça a changé beaucoup le modèle économique parce que bah, essayer de rendre aussi rentable un site internet avec des pubs et des bannières versus vendre son magazine à l'entrée, bah, évidemment, le différentiel est considérable. Et donc, les conditions que j'ai connues, moi, étaient déjà très différentes de celles des débuts où c'était des jours heureux, si on peut le dire. Des jours heureux et des nuits blanches, mais quand même, globalement, ça valait le coup.
Et du coup, donc, avec le développement d'Internet, tu disais donc, en effet, la presse papier spécialisée dans les Solus, ou même les Solus dans la presse papier tout court, ça s'est écroulé. Est-ce que tu peux nous parler de cette, entre guillemets, révolution dans le monde de la Solus qu'a apporté YouTube et toutes les plateformes de streaming vidéo?
D'abord, ça s'est passé par le web, par les sites internet. J'en parlais juste avant avec le TAJV de jeuxvideo.com. Là aussi, les camarades des années 90 se souviendront émus du premier ami qui avait téléchargé le TAJV et qui pouvait imprimer les codes de GTA, ce qui était déjà un petit quelque chose. Après, il s'est retrouvé qu'énormément de sites spécialisés s'étaient lancés, avaient leur rubrique, jeuxvideo.com, elle était plutôt bien tenue, des pure players comme Super Solus qui s'étaient aussi lancés et qui sont toujours vivants, je crois. Et ensuite, effectivement, la digitalisation, les vidéos. Alors là aussi, ça arrive plutôt au milieu des années 2010. On oublie que les vidéos sans limite de durée sur YouTube, ça n'arrive pas avant finalement 2015-16. Très longtemps, YouTube c'est limité en qualité et en durée. Et puis les joueurs n'ont pas le même réflexe à aller regarder un walkthrough vidéo. Ces walkthrough vidéo qui maintenant sont l'essentiel de l'offre en Solus, sont faits par des amateurs. Qui n'ont pas respecté le droit du travail, qui s'ils veulent sortir leur guide vidéo le premier, eh ben ils vont pouvoir enchaîner 15 heures de jeu sans dormir, sans problème, juste uploader ça et après partir se coucher et récupérer les vues. C'est pas la même chose quand il s'agit pour un site de rédiger, ça prend évidemment plus de temps, puis mettre en page, puis mettre en ligne. Le travail des sites dédiés est évidemment pas aussi comparable à ces guides vidéo, mais qui ont trouvé leur public. Alors moi, c'est vraiment en tant que joueur, ça m'insupporte. Si je suis bloqué dans un jeu, déjà ça me fait chier. Si je veux avoir la réponse à mon problème, je veux la réponse à juste problème. Je veux pas regarder dans une vidéo ou alors est-ce que ce mec-là il fait ce chapitre-là avant ou après. Ah merde, j'ai cliqué trop loin, je suis tombé sur une scène importante ou je suis tombé sur un boss. Allez regarder dans la vidéo, trouver la bonne séquence. Voilà, moi c'est pas l'usage que j'en ai. Donc c'est pour ça que quand j'étais chez JV, j'ai toujours milité pour qu'on continue essentiellement l'écrit et il y a toujours un public pour ça. Mais c'est vrai que pour le plus jeune public ou ceux qui ont fait la transition vers qui sont sortis du web, qui ne tapent plus dans Google mais qui tapent directement dans YouTube et dans TikTok, c'est personnel d'arriver dessus. Après, il y a aussi un sujet que les jeux ont pas mal changé. Vous en parlez tout à l'heure des Souls qui ont un peu rebattu le game. Les Souls. Le fait de faire une solution linéaire un peu compliquée, les gens parfois ont besoin pour des boss, les gens ont besoin de guides. Le guide, c'est pas tant pour se faire expliquer que se faire rassurer. Exerf qui va expliquer pendant 20 minutes quelque chose qui pourrait être lu en 2 minutes, c'est plus parce qu'il rajoute de l'humeur, de l'atmosphère, du fait de rassurer les gens. Mais ça trouve plutôt son public. Et surtout, bah, pour un créateur seul qui poste ses vidéos de walkthrough, c'est évidemment beaucoup plus rentabilisable que pour des grosses équipes qui ont des salaires, des serveurs, des heures de bureau. Donc évidemment, là aussi, la place pour des médias professionnels s'est réduite comme pour l'ensemble de la presse sur la section des solutions également.
Tu parlais justement d'un exemple que je trouve particulièrement intéressant où tu disais que regarder un walkthrough dans le cas où tu veux juste trouver la réponse à une énigme mais selon l'ordre dans lequel le joueur ou la joueuse qui fait le walkthrough fait le jeu, du coup c'est plus compliqué à trouver. Ça permet d'amener à moi l'autre questionnement que j'ai en gros, c'est justement ces spécificités de la rédaction de Solus par rapport aux tests ou aux news de la presse jeux vidéo. Et l'évolution technique vraiment pure dans le travail brut vis-à-vis notamment de l'évolution justement des jeux et les jeux à monde ouvert ou les jeux services et ainsi de suite.
Oui, c'est qu'on a plus les jeux en structure ont beaucoup changé. On est au cœur du modèle économique. Ce que tu dis sur les jeux services, le principe d'un jeu service, c'est de faire jouer le joueur le plus longtemps. Plus il va rester dans le jeu, plus il a de chance de consommer. Le design du jeu est fait de façon à ce qu'à un moment il puisse être frustré pour qu'il puisse passer à l'acte. Ce qui est tout à fait l'inverse du jeu qu'on a connu avant où le joueur va payer 60 euros, il faut qu'il soit le plus satisfait possible. Donc on ne cherchait pas à le frustrer, on lui mettait même du contenu caché avant les DLC. Ça fait des choses qui partie n'existent plus, des vrais secrets à trouver de si vous finissez le jeu de telle façon particulière ou si vous trouvez cette salle, vous allez obtenir du contenu supplémentaire. Non, aujourd'hui, si vous voulez du contenu supplémentaire, il va falloir le payer en DLC, point. Donc c'est évidemment plus la même approche pour les jeux, donc la façon de les traiter, et même technologiquement, finalement, on est beaucoup aidé par le fait que, avant les solutionneurs, quand ils voulaient prendre des screenshots, si c'était un jeu sur console, il fallait prendre des photos de la télé, dans le noir, essayer de caler le bon moment. Aujourd'hui, évidemment, on peut tout enregistrer directement sur son PC, c'est un peu plus simple. Donc les moyens techniques sont plus abordables. Ça permet, plus facile d'avoir deux écrans sur un ordi. Aujourd'hui, n'importe quel écran peut faire deux ordi. Vous pouvez avoir votre jeu d'un côté pour jouer au jeu, votre Word de l'autre pour écrire. Option une soluce en anglais ou quelqu'un qui a déjà fini une soluce pour l'avoir sur les genoux et pour pas perdre trop de temps à rédiger votre soluce. Et après sur le fait des jeux services aujourd'hui, c'est que maintenant des jeux sont mis à jour. Je parlais tout à l'heure des magazines. Quand vous sortiez la soluce de Tomb Raider, vous avez fini votre soluce de Tomb Raider, elle sera bonne, elle sera valide pour toute la vie du jeu. Évidemment aujourd'hui quand vous faites des guides sur Fortnite ou sur Genshin Impact, littéralement les contenus qu'on produit sur Fortnite sont valables 3 mois pour une saison et après il faut passer à la saison suivante, il faut quasiment tout refaire, le nouvel équilibrage des armes, les nouvelles spécificités, les nouveaux lieux. Le travail est beaucoup plus lié à l'actu. Et donc c'est pour ça que même si l'exercice à la base était un peu différent des testeurs et des newsers, les news finalement s'en rapprochent beaucoup parce que bah, maintenant les jeux vivent après leur sortie, ce qui n'était pas trop le cas avant. Les news dans une rédaction, on les faisait sur un jeu qui va sortir, et puis une fois qu'un jeu était sorti, bah, il était déjà sorti et donc il n'y avait plus grand chose à faire. Et du côté du test, bah, évidemment, l'exercice est beaucoup plus difficile, en tout cas plus laborieux. Le test a cette part de subjectivité, a cette part de goût, a cette part de style d'écriture. Il y a beaucoup de tests de jeux qu'on a lus, pas tant pour le jeu que parce qu'on sait que c'était tel testeur qui allait le faire, pour le style. Enfin, lisez Canard PC, c'est à moitié pour savoir quel jeu à quel jouer vous allez jouer. Et à moitié pour quand même bien rigoler. Et des fois, bah, si le jeu n'est pas très bon, ou si vous n'avez pas pu terminer le jeu, on peut toujours s'en sortir par des traits d'humour dans son papier pour faire que le papier est sympa, à défaut d'être extrêmement exhaustif, et personne ne va s'en rendre compte. Une solution, si vous n'allez pas au bout du jeu, et bah, vous ne rendez pas service au lecteur, vous n'avez pas fait votre job. Parce que le job au Solus, c'est d'être utile aux joueurs, quel que soit le jeu auquel ils jouent. Et souvent eu l'exercice de devoir bah, prendre en charge éditorialement des jeux auxquels je ne jouerais pas naturellement, mais pour lesquels il y a énormément de demandes, donc non, on ne va pas pouvoir faire l'impasse, et à la différence d'un testeur, pas pouvoir dire bah, « écoute, ce n'est pas ma spécialité, je ne veux pas écrire dessus ». Nous, si ça marchait, c'était dans notre intérêt de le traiter, parce que les gens ont besoin d'aide. Comment battre ce boss dans Dark Souls? Comment
je rebondis sur du coup sur les différentes chroniques de Tinuzona qui nous parle régulièrement d'accessibilité dans le jeu. Je rebondis aussi sur quand vous avez parlé de Dark Souls. Comment se positionnent les solusseurs et comment se positionnent même les solus en général? Par rapport à la question de l'accessibilité, la question de la difficulté dans les jeux, est-ce que la question se pose? Et plus largement, particulièrement aujourd'hui, comment ça se pose vis-à-vis des jeux où finalement, grâce à des options d'accessibilité proposées par les développeurs et développeuses, par les studios, finalement, bah, il y a moyen très facilement d'accéder à la fin du jeu sans se confronté à sa difficulté ou à ce que les Solus viendraient, enfin venaient à solutionner.
Ah, on a moins de travail qu'avant. Les jeux sont devenus globalement plus faciles et en plus proposent des options d'accessibilité, comme tu le disais. On peut moduler la difficulté, notamment supprimer certains éléments de gameplay pur qui pouvaient être un problème. Et globalement, les jeux sont remplis de systèmes d'assistance qu'on n'avait pas auparavant. Pas un jeu moderne qui n'a pas un curseur d'objectif. Et toujours un petit peu cette surprise, et ça pique quand on relance un jeu il y a 15 ans ou 20 ans de l'ère PlayStation ou Nintendo 64, d'être toujours surpris à quel point les jeux des années 90, qui, pour là aussi tout un tas de raisons, étaient plus difficiles. Il y avait cette peur à l'époque qui a été documentée par les développeurs, leur hantise, c'était que les joueurs puissent emprunter un jeu au vidéoclub et le rendre en 24 heures ou en 48 heures à ce dit vidéoclub et ne pas l'avoir à l'acheter. C'est pour ça que le niveau de difficulté était globalement plus élevé pour que bah, les gens restent plus longtemps sur leur jeu. Et ça arrivait que bah, des RPG ou n'importe quel jeu d'aventure se permettaient d'avoir un PNJ un peu caché, un peu secondaire, qui donne un indice très vague de... Une vieille légende raconte que peut-être il faudrait aller dans ces montagnes, mais c'est pas sûr. Et en fait, c'était le moyen pour le jeu de dire il faut aller dans ces montagnes très clairement. Aujourd'hui, le même jeu remaké aujourd'hui, dès lors que vous allez parler à ce PNJ, vous aurez une grosse étoile qui s'affichera sur la carte pour la carte pour vous dire c'est là. Donc il y a beaucoup moins besoin en tant que joueur à y aller parce que les joueurs ont une tolérance à la frustration qui est plus la même et parce que le paysage n'est plus le même, les sorties sont si nombreuses et l'effet zapping est tellement risqué qu'il vaut mieux éviter de frustrer le joueur que de le laisser tourner parce que bah, s'il tourne, il va peut-être se faire refund le jeu si ça fait moins de 2 heures qu'il y jouait, mettre un commentaire sur Steam pour dire on n'y comprend rien. Alors qu'avant, bah, un jeu dur, c'était quelque chose qui était finalement apprécié et bien vu. Donc on est plus sensible à ça, et il y a plein de raisons commerciales qui font que les jeux sont un peu moins durs et que les jeux doivent être bien sûr accessibles parce que la prise de conscience a été faite sur le fait que ça vaut le coup et c'est pas si difficile à mettre en place, d'autant plus maintenant que le travail du X commence à être bien documenté et à avoir bien été accompli.
Pendant l'entretien, donc tu m'as dit que d'avoir été solutionneur et d'avoir, comme tu le disais un peu plus tôt, cette idée de retrait par rapport au jeu, où le but du jeu c'est pas de juger le jeu, c'est juste de proposer aux joueurs et aux joueuses le moyen de le traverser ou de trouver ou de les débloquer ainsi de suite. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour justement développer ton activité actuelle, puis je vais te laisser nous parler un peu de ton activité actuelle.
Oui, effectivement, trois ans, j'ai quitté jeuxvideo.com il y a 3 ans maintenant, me suis lancé en consulting indépendant pour les éditeurs et les développeurs de jeux, et donc faire en partie un des exercices principaux que je fais, c'est des mock reviews, c'est-à-dire de jouer au jeu avant leur sortie et de rendre après des rapports à leurs développeurs ou à leurs éditeurs pour mettre le point pour souligner ce qui va et ce qui ne va pas dans le jeu, pour anticiper les futures réactions du public. Il y a un vrai enjeu, notamment santé mentale des équipes, sur le fait que ce que je vais leur dire moi dans mon rapport, je vais le dire un peu plus poliment et un peu plus précisément que des commentaires sur X, anciennement Twitter, ou sur des forums où les joueurs ne mâchent pas leurs mots quand ils ont des reproches à faire à un jeu. Ça permet quand même aux équipes d'être un petit peu plus préparées. Et c'est vrai que d'avoir fait toutes ces années de Solus m'a rendu un peu plus détaché de ce à quoi je joue, et je pense un peu plus analytique. C'est quelque chose auquel je fais très attention quand je joue un jeu. C'est bête quand vous allez écrire une solution, mais vous essayez de comprendre au maximum comment est organisé le jeu pour le reproduire dans votre mise en page. Ça me permet qu'à chaque fois que je vais prendre un jeu, avoir un rapport toujours très analytique pour essayer de comprendre comment fonctionne le jeu et finalement d'accéder plus vite à avoir des stratégies déjà pour les finir plus rapidement, parce qu'il y a toujours un enjeu de vitesse. L'éditeur a besoin de savoir le plus vite possible ce qu'il peut corriger ou pas sur son jeu, et chaque jour de gagner, c'est des heures de développement en plus. Ça m'a permis d'avoir plus de recul sur le fait que je peux a priori recevoir n'importe quel jeu, parce que ce que je disais tout à l'heure, d'avoir finalement eu plus d'ouverture d'esprit quand il s'agit d'essayer des nouvelles choses et quand il s'agit de les décortiquer. Et c'est plutôt utile aujourd'hui. Ça a permis une transition assez chouette et globalement très, très très heureux maintenant d'être passé de l'autre côté et d'aider les équipes à faire les meilleurs jeux possibles et à faire que leur lancement se passe bien et que ce qu'imaginaient les équipes du marketing par rapport à ce qu'avaient promis les développeurs, il y a toujours un petit monde entre les deux. Et d'essayer de faire que la rencontre dans les deux se passe le mieux possible.
L'entretien continue après la deuxième pause musicale. Nous écoutons Toward Mount Nibble, composé par Nobuo Uematsu et arrangé par Shotaro Shima pour l'OST de Final Fantasy VII Rebirth. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Alvin et le reste de l'équipe pour la suite de l'entretien. Alors, avant de passer la parole à mes camarades, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau de musique en particulier quand on t'a demandé de choisir le morceau qui coupera ton entretien ?
J'aurais pu mettre toute l'OST de FF7 Rebirth. FF7, c'est vraiment un vrai jeu de cœur, un vrai jeu important dans ma vie. On est en 99 et Pokémon sort en France et coup sur coup, les deux chocs RPG de ma vie. J'ai 9 ans et je joue à Pokémon et puis à FF7. Mais c'est comme Pokémon en fait. C'est pas tout à fait comme Pokémon, mais du coup, c'est de très loin. Final Fantasy VII, c'est mon histoire de jeu vidéo, c'est mon conte préféré. Je pourrais revivre et revivre et revivre toute ma vie cette histoire. C'est mon histoire préférée de la vie. Et c'est un tel cadeau quand FF7 Rebirth est sorti. Je joue plus à des open world. J'ai fait une exception pour FF7 Rebirth qui traite très bien, revisite très bien l'histoire de Final Fantasy VII, en rajoutant ce qu'il faut, en éludant ce qu'il faut. C'est très beau travail. C'est énormément de fan service. Et c'est une OST fabuleuse. D'où ce choix. C'est un vrai coup de cœur récent.
Alors, est-ce que quelqu'un autour de la table a une question ou une remarque suite à l'entretien ? Tisona ?
Oui, bah merci. Merci pour ce partage, c'était vraiment super intéressant. Moi, j'avais une question un petit peu à te poser. Donc, tu as parlé de l'évolution de la frustration des joueurs et des joueuses, des jeux qui étaient potentiellement plus faciles aujourd'hui. Mais à l'époque, on a eu toute une phase de code de triche, de tricks qui permettaient de changer très radicalement une expérience de jeu. Je pense au fameux code dans les Sims, mais aussi au CD qu'on pouvait mettre. Moi, j'avais un CD PS2 où on pouvait tricher dans certains jeux. Est-ce que, aujourd'hui, on a effectivement des options qui permettent d'approcher plus facilement certains jeux, qui permettent de désacraliser et qui, j'imagine, peut avoir un impact sur la perception et l'intérêt de la soluce. Mais toi, qu'est-ce que tu, comment tu perçois la disparition de tous ces systèmes de triche à l'époque ? Alors, je ne sais pas si c'était quelque chose qui était intégré, enfin. C'était intégré dans des solus, pas dans celles que j'ai consultées personnellement, mais je ne sais pas si c'était quelque chose que vous partagiez et comme ta perception de la disparition progressive de ce type de code qu'on trouvait un petit peu partout à l'époque.
En fait, oui, tu parles de deux choses. Il y a les cheats intégrés au jeu, faire le Konami code qui va permettre de débloquer des choses, qui à la base est un héritage des features de développeurs. À la base, c'est les développeurs qui mettaient ça pour quand ils testent le jeu. Évidemment, ils ont besoin d'être invincibles et de ne pas mourir, qui finalement laissaient dans le jeu parce que ça faisait des bonus sympas et que ça permettait de faire vendre des magazines à l'époque. C'était un moyen aussi normal de laisser le joueur. Et ce dont tu parles à côté, c'est les modifications. Si tu mettais un CD, puis après tu mettais le CD de ton jeu, c'est que tu modifiais la mémoire de la console. C'était un éditeur qui s'appelle Datel qui faisait beaucoup de produits gris, pas très loin, au bord du piratage, quasiment au bord du piratage, et qui, à l'époque, arrivait à craquer les sécurités de la console pour créer leur software à eux, qui n'était pas validé par Sony, mais qui arrivait quand même à être lancé par la console parce que c'était des technologies qu'ils avaient reverse engineerées, et après qui mettaient dans la mémoire de la console des paramètres différents qui font qu'une fois que tu allais lancer ton jeu, ton jeu était modifié comme tu le ferais en changeant la mémoire dans un émulateur aujourd'hui. Ça a disparu progressivement parce que les consoles finalement sont devenues beaucoup mieux protégées. Et à partir de la PSP, de la PS3, on commence à avoir des cryptages très forts, ce qui font que des logiciels non autorisés, sans vraiment pirater la console, on n'y arrivait plus. Donc toute cette para-là est morte. Et pour ce qui est des cheats développeurs, malheureusement, je parlais de nos amis du marketing tout à l'heure, les amis du marketing ont eu cette idée de génie que, au lieu de donner un code, pourquoi ne pas le faire payer 10 €? Et c'est cette époque-là qu'on avait vu les premières polémiques, c'était sur le Tales of qui était sorti sur Xbox 360, je crois, à l'époque, qui vendait son God Mode ou vendait des boosts d'XP pour 10 € dans la boutique. Et donc voilà, nous sommes les victimes du marketing à ce niveau-là. Et après, au-delà, sur le fait que globalement, une réflexion en général qui font qu'à un moment, les joueurs ont voulu plus du film interactif et finalement des jeux qui
se focalise sur ce qu'il véhicule en termes d'émotion, en termes de narration, en termes de scénario, pas forcément de façon prétentieuse, hein, on peut être aussi bien sur Call of Duty, j'en parlais tout à l'heure, que finalement sur le fait d'offrir du challenge et le fait d'offrir des jeux à challenge. Et revenu plus tard, il a fallu attendre toute la saga Souls qu'elle s'échappe du Japon pour arriver en Occident et finalement ça devient un vrai phénomène. Et puis par le jeu indépendant qui, assez vite, avec des Super Meat Boy par exemple, a redonné naissance au fait des jeux difficiles. C'est vrai qu'il y a eu un vrai moment de creux au moment où le jeu s'est grand publicisé par la Wii, par la PS360, qui ont cité des immenses succès populaires et qui ont amené des jeux un peu plus filmiques et un peu moins gamer, en tout cas un peu moins challenging.
Léa, tu voulais prendre la parole ?
Oui, alors c'est une question peut-être un peu bête, mais. C'est quoi une bonne soluce ? Est-ce qu'il y a eu une standardisation un peu du format au fur et à mesure du temps ? Est-ce qu'il y a eu un petit peu une réflexion sur la meilleure approche pédagogique ? Est-ce qu'il faut que ce soit hyper complet, hyper détaillé ? Est-ce qu'il faut mieux rester concis ou essayer de contextualiser Enfin, j'imagine qu'il y a autant d'approches qu'il y a de joueurs, mais voilà, je me demandais, pour toi, qu'est-ce que c'est une bonne soluce ?
Une bonne soluce, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la structure des jeux. Une bonne soluce, c'est un jeu bien structuré. C'est un jeu qui est très clair, qui rend service au soluceur, où les grandes parties sont indiquées, où c'est très scolaire, hein, finalement, hein, vraiment de grand 1, grand 2, grand 3, et que le grand 1 se divise en A, B, C, qui eux-mêmes se divisent en 1, 2, 3. Et où vous avez un log très clair, c'est pour des histoires de référencement Google, entre guillemets, enfin, entre autres. Le fait que la structure soit claire fait que le joueur, en tant que joueur, vous savez où ce que vous allez consulter. Et nous, c'est parfait, parce qu'en termes de mise en page, on n'a qu'à suivre exactement la structure du jeu. C'est plus simple pour tout le monde, ça se référence mieux sur Google, ça aide. Ma vraie hantise, entre guillemets, c'était les jeux où aucun objectif qui apparaît à l'écran, aucune référentielle de titre. Vous êtes obligé de diviser la soluce du jeu par rapport à ces lieux, le temple de Bidule, le marché de machin, et voilà. Mais l'essentiel, c'est vraiment un travail de structure, c'est de suivre au mieux la structure du jeu, et plus le jeu présente une structure claire, plus finalement le travail est facile pour nous, parce qu'on sait exactement où ranger toutes les informations, et les joueurs sauront exactement ce qu'ils sont en train de chercher et où ils veulent le chercher. Si c'est marqué chapitre 3, deuxième objectif, ils trouveront très facilement chapitre 3, deuxième objectif chez nous.
Eh ben, merci beaucoup, Alvin, d'avoir participé à l'entretien. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Et je rends le micro à Tizona jusqu'à la fin de l'émission.
Merci. Du coup, on va passer à la chronique d'Anna qui va nous parler du modding.
C'est parti. On dit que jouer à un jeu permet de côtoyer le monde des possibles. Un monde des possibles dans lequel on peut incarner toutes sortes de créatures, humaines ou surhumaines. Vivre des histoires inimaginables dans des mondes fantasmés. Parfois, ces jeux, tels des maisons de poupées, nous permettent de créer des univers à notre image. Des pièces sur mesure dans lesquelles on s'amuse à faire évoluer nos petites poupées virtuelles. Et si, dans ce monde des possibles, on pouvait aller encore plus loin ? Et si on pouvait, tel un peintre avec son tableau, dessiner non seulement nos propres histoires, nos propres fins et nos propres personnages, mais aussi les lignes, les codes de notre jeu, y ajouter de nouvelles règles, de nouvelles architectures informatiques et pourquoi pas de nouveaux modes de jeu. Et le terme est bien choisi puisque c'est du modding dont j'aimerais vous parler. Le modding est une pratique qui désigne les modifications apportées par les joueurs et les joueuses à un jeu, dans le but d'y ajouter des fonctionnalités ou de modifier celles qui étaient déjà présentes. Le modding peut aussi complètement transformer le jeu de base pour en faire quelque chose de nouveau et de complètement différent. Le modding, c'est comme écrire un cadavre exquis en poésie. Le développeur développe et le joueur vient écrire à son tour quelques lignes sur ce code informatique qu'est le jeu vidéo. D'autres personnes ajouteront à leur tour leur pierre à l'édifice. Dans ce tourbillon de créativité, le jeu vidéo se métamorphose et se transforme selon les bons vouloirs de sa communauté qui se plaît à lui donner mille et un visages. Il s'agit là de l'une des formes d'appropriation ou de détournement ultime du jeu vidéo qui met en lumière la créativité d'une communauté. car le modding est avant tout une pratique sociale. Et ce n'est pas un hasard si Bethesda, Blizzard ou encore Valve prodiguent à leur communauté des outils de modding. Car le modding, c'est une autre façon de jouer à un jeu. C'est un moyen de détourner des règles, de créer de la nouveauté dans l'existant et d'ouvrir la brèche d'un nouveau champ des possibles. Et c'est alors que la boucle de l'engagement fait son apparition. En donnant aux joueurs et aux joueuses les outils pour déconstruire et refaçonner la matière existante, les éditeurs assurent une rejouabilité et un intérêt constant pour leur jeu. Prenons l'exemple des Sims, célèbre franchise d'Electronic Arts dont la communauté est connue pour ses excentricités, son sadisme, mais aussi sa créativité. Pour rappel, les Sims est un jeu de simulation de vie de type bac à sable dans lequel les joueurs et les joueuses peuvent créer un monde sur mesure peuplé de Sims dont la vie ressemble étrangement à notre vie humaine et qui reproduit le quotidien d'un individu au détail près dans lequel vous pouvez créer votre propre famille, votre maison dans les moindres détails en passant par le choix de vos fenêtres jusqu'à la couleur de votre canapé. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à l'une de nos chroniqueuses car il y aurait à mon sens beaucoup à dire sur le démantèlement des corps pour faire référence à la chronique de H. Mais ce sera pour une autre fois. Bref, je ne vais pas m'éparpiller, mais c'est un jeu vidéo dont le gameplay semble ultra complet. Et pourtant, quand on navigue sur les forums français dédiés aux Sims 4, on dénote pas moins de 8000 mods qui ont été créés par la communauté, parmi lesquels on retrouve des mods qui viennent ajouter de nouvelles mécaniques de jeu, comme les accidents et les maladies, la religion ou encore la mendicité. Tout ce qui n'existe pas encore est pensé par la communauté avant même que les développeurs n'aient le temps de l'éditer. Toute cette créativité donne lieu à une multitude d'histoires un peu borderline, parfois sulfureuses, qui finissent sur YouTube, dans le meilleur des cas, en mode telenovelas. Mais revenons à notre sujet principal, le modding. Les Sims comme le modding semblent accorder cette part de liberté dont les joueurs et les joueuses peuvent s'emparer pour remodeler le jeu à leur façon. Et ce type de liberté peut engendrer des créations assez exceptionnelles. C'est ainsi qu'un mode du jeu Half-Life a donné naissance à Counter-Strike, ou encore que Defense of the Ancient, un mode de Warcraft 3, a été téléchargé par plus de 10 millions de joueurs et a inspiré le célèbre League of Legends. On trouve de nombreuses success stories dans le monde du modding. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ça reste un sujet de tension auprès des éditeurs qui, pour certains, y voient un acte presque blasphématoire qui viendrait désacraliser les codes informatiques d'un jeu qui a été pensé financièrement et dont il ne faudrait surtout pas froisser la propriété intellectuelle. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas négliger que le modding, à la manière du speedrun, est une pratique qui génère de l'engagement et surtout beaucoup d'effusion au sein de sa communauté. Et comme l'a très bien dit Tizona en début d'émission, il s'agit de laisser dans le jeu un peu de place aux autres. Alors la question se pose à vous, chers auditeurs et chères auditrices, mais aussi à vous, chroniqueurs et chroniqueuses, que dites-vous du modding ?
Si personne prend la parole, je vais la prendre. Merci pour cette chronique, effectivement. Sur un dernier point qui est celui des mods qui créent un jeu presque à part, c'est toujours très impressionnant de voir l'engagement de personnes. Je suis très attachée, par exemple, au jeu Hollow Knight, et c'est impressionnant de voir le nombre de mods qui sont faits à côté, de combats, de nouvelles mécaniques, d'arc entier, etc., de randomizer, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on n'a plus un jeu, on a des jeux à côté. Et c'est un exemple comme d'autres. Il y a l'ensemble des jeux Mario qui ont eu énormément de détournements pour en faire des niveaux très complexes, très sadiques. Et il y a à la fois une culture et une communauté dont tu parles. Et c'est assez vertigineux de se dire, une fois que tu as un objet, en fait, tu n'as pas qu'un jeu, tu as potentiellement, à partir du moment où tu as une communauté, tu as plusieurs jeux, tu as plusieurs propositions, et c'est toujours très, très spectaculaire de voir aussi l'engagement que les personnes, que les fans sont prêts et prêtes à investir dans une œuvre qui, a priori, peut être perçue comme étant complète.
Ouais, exactement. Et c'est ce qui est assez fascinant, c'est que du coup, tu te rends compte que une fois que tu accordes cette part de liberté en fait à ta communauté, ils peuvent en faire tellement plus que ce que toi tu avais pensé. Enfin, il y a qu'à voir les manières dont déjà les joueurs et les joueuses détournent en fait les règles d'un jeu. Alors quand on leur offre la possibilité de créer quelque chose, c'est toujours assez impressionnant. Donc je suis d'accord avec toi, je suis toujours autant surprise en fait par tout ce qu'on peut créer. Et je trouve que les Sims c'est un bon exemple parce que du coup il y a tellement de contenus qui sont créés tous les jours. Enfin, à tel point qu'on a aujourd'hui des personnes qui sont vraiment dédiées à la mise à jour en fait, des contenus qui ont été créés pour dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, faire un peu une sorte d'état des lieux de ce qui est indispensable, de ce qui ne l'est pas, de ce que les gens voudraient plutôt avoir dans leur jeu ou pas. Et je trouve que c'est assez impressionnant de se rendre compte qu'on peut vraiment, à partir d'un jeu, refaire quelque chose de complètement nouveau, ou à l'inverse, garder justement cette matière première qu'est le jeu, et après pouvoir ajouter notre propre personnalisation en utilisant, enfin, en plus en mettant aussi en valeur ce que les autres ont fait, mais aussi en s'appuyant sur ce que les autres ont fait pour créer des choses qui nous conviennent à nous.
Je vais pouvoir repasser la parole à Lazare pour le jeu.
En effet, c'est moi, ce mois-ci, qui suis en charge du jeu de fin d'émission, et ce jeu s'appelle Top 10. On y a déjà joué il y a quelques mois, on va continuer à essayer de l'expérimenter, de l'améliorer un peu. Je vous cache pas que je pique les possibles améliorations dans d'autres podcasts que j'écoute. Du coup, l'idée là, c'est que je vais vous donner le numéro 13, le numéro 12 et le numéro 11 de ce top. Ça va vous permettre d'essayer de trouver le thème. Et ensuite, on va remonter de 10 à 1. Si par hasard vous en citez un qui est placé un peu plus haut, je vous dirai oui, il est dans le top 10 d'après vous, où est-ce qu'il est. Et surtout, je vais vous dire dans quels autres tops on peut retrouver ces jeux pour vous permettre de vous aider, pour vous aider et vous permettre de trouver plus facilement. Alors, nous sommes partis. Dans le top de ce mois-ci, nous avons en 13 The Witcher 3 Wild Hunt, en 12 The Elder Scrolls 3 Morrowind, et en 11, Grand Theft Auto San Andreas. Est-ce que vous avez déjà une petite idée du thème qui nous intéresse ce mois-ci?
Est-ce que c'est les open world?
Non.
Les meilleurs open world?
Pas les open world, ça aurait pu, mais ce n'est pas ça. Notre numéro 10, le premier donc de notre top, se trouve aussi dans le top des meilleurs FPS multijoueurs, des meilleurs jeux gratuits et des meilleurs jeux Valve.
Team Fortress, du coup.
Ouais. Ah, Team Fortress.
Le 2.
Le 2, exactement. En effet, en numéro 10, on a Team Fortress 2. Bravo, H. Le numéro 9 se trouve dans les thèmes suivants. Meilleur jeu où l'on est du côté des méchants. Meilleur jeu où il faut ramasser de l'argent. Et meilleur jeu 3D.
Mafia ? Mafia 3 ?
Non. Mafia 3 se trouve... Oula, non, il n'a même pas l'air d'être dans le... Top 30. Le jeu que l'on cherche se trouve aussi dans les jeux sur lesquels vous avez passé le plus de temps en 2013. Donc le jeu est sorti en 2013. Les meilleurs jeux avec des anti-héros. On rejoint l'idée de jouer des méchants. Et il est aussi dans le top des meilleurs jeux, enfin des jeux sur lesquels vous avez passé le plus de temps en 2015.
Ah, non, j'aurais lancé BioShock Infinite, mais pourquoi il serait là en 2015 aussi?
Non, ce n'est pas BioShock Infinite. Il est dans le top des meilleurs jeux Rockstar Games.
Ah bah GTA 6 à 5.
Oui, oui, en effet, GTA 5, oui. En effet, est-ce que quelqu'un veut se lancer sur l'idée du thème, en sachant qu'on n'est donc pas sur les open world, mais il y a quelque chose qui pointe par là?
Team Fortress m'a un peu déboussolé, là.
Ouais, c'est déboussolant, hein.
Ouais.
J'ai pas encore. C'était quoi déjà le numéro 12?
Le numéro 12, c'était The Elder Scrolls 3 Morrowind.
Ok.
Du coup, on va essayer de trouver le numéro 8. Il est dans le meilleur top des jeux de 2006. Le meilleur jeu de rôle. Et le meilleur jeu avec des vampires.
Bloodlines?
Non. Il est aussi dans les meilleurs jeux en monde ouvert. Et dans les jeux les plus buggés.
C'est vraiment pas...
Oblivion.
Ouais, Oblivion, enfin, exactement. Oblivion. The Elder Scrolls 4, Oblivion. En 7, nous avons les meilleurs jeux vidéo de 99, les meilleurs jeux Microsoft et les meilleurs jeux de stratégie.
Age of Empires 2, peut-être ?
Ouais, le 2, exactement, The Age of Kings.
Waouh !
Ça, c'était mon jeu nostalgie, ça.
Je trouve que Age of Empires donne quand même un bon indice sur le thème de ce top 10. On passe au numéro 6, meilleur jeu de stratégie au tour par tour, meilleur jeu Mac, meilleur jeu historique et meilleur jeu vidéo de 2005.
Civilization 4.
Exactement, Civ 4.
Les stratégies au tour par cours, à tour par tour, il n'y en a pas beaucoup.
On pourrait essayer d'inventer un jeu de stratégie au tour par cours.
Oui.
Mais là, j'ai toujours pas le thème, hein. C'est...
toujours pas
non,
le thème.
Non, c'est... Waouh, de GTA à Civilization à Morrowind.
Ouais, bah oui, ça prend du temps de trouver. Le numéro 5, meilleur MOBA, jeu les plus joués en 2014, meilleur jeu gratuit et meilleur e-sport.
C'est vraiment, on pèse un truc à
ouais, complètement, complètement. 2014.
Parce que c'est LOL.
Exactement, ouais. C'est League of Legends.
Est-ce que du coup, c'est les meilleurs jeux PC ?
Non. Ensuite, en numéro 4, on a les meilleurs jeux de stratégie au tour par tour, les meilleurs jeux sur Linux, les meilleurs jeux Mac et les meilleurs jeux historiques.
Que c'est encore Civi.
Ouais.
Ouais.
Mais lequel ?
Ça doit être le 5.
Le 5, exactement. Et attention, on rentre dans le top 3. Meilleurs jeux massivement multijoueurs, meilleurs jeux de fantasy et meilleurs jeux Mac.
World of Warcraft, je suppose.
World of Warcraft, oui. Est-ce que vous voulez prendre un tout petit peu de temps pour essayer de trouver le thème avant de découvrir le top 2 ?
Est-ce que c'est lié à des habitudes de jeu ?
Alors, je peux pas dire non, mais je peux pas dire oui non plus. Enfin, ça, je pense que si je dis oui, ça va plus vous aiguiller sur quelque chose de mauvais.
C'est pas lié à une plateforme, j'imagine, ou à un genre de jeu ?
Non, non, non.
Un élément dans le jeu ?
Non, non plus.
Ça tournerait pas autour de la stratégie ?
Bah alors... Je pense qu'on peut quasiment mettre tous les jeux de stratégie dans ce top.
C'est ça.
Mais ce n'est pas lié à la stratégie en particulier.
Ok.
Des sessions, des parties de jeu longues.
Ah.
Mais... c'est ça.
Oh.
Ah.
C'est le top des jeux les plus chronophages.
Ah, d'accord. Chronophage. Ok. Ok.
Je voyais ça en plus les parties de stratégie qui durent très longtemps, mais d'accord.
Et bah du coup, essayez de trouver les deux premiers. À partir du moment où vous avez déjà la liste
Minecraft,
là.
Peut-être.
Ouais, Minecraft en deuxième, exactement, bravo.
En deuxième.
Binding of Isaac.
Non.
Fortnite.
Non.
Counter-Strike, non.
Non. Au-dessus de Minecraft, Roblox.
Non.
Dota 2, si c'est les gens de sens critique.
Non. Dota 2 est 30e.
C'est pas un autre Counter-Strike.
Non. Je vais vous aider avec les tops. Le jeu sur lequel vous avez passé le plus de temps en 2013.
En 2013 ? Je suis sûr que ça va être un truc genre super évident.
C'est sûr.
Call of Duty ?
Non.
FIFA ?
Non plus. Il est aussi dans les jeux les plus buggés.
Les plus buggés ?
Ah, Skyrim ?
Exactement, c'est
oui,
Skyrim.
C'est vrai qu'avec la logique d'Avis, je n'y ai pas pensé. Ouais. Je cherchais un
bien sûr.
Skyrim qui est au-dessus de Minecraft ?
Oui.
Ouais, je suis étonné aussi.
Et oui. Et voilà, donc du coup, c'était en effet notre top 10, en sachant que ouais, certains jeux que vous avez cités étaient quand même bien bas dans le classement. Hein. On a FF7 en 14e, Diablo 3 en 17e.
League of Legends après Civilization, c'est aussi...
Dofus en 23e, Tetris en 24e. C'est honorable. Bon, après, ils trichent un peu, ils mettent Pokémon bleu et Pokémon rouge ensemble, mais pas au même endroit. C'est assez bizarre. Vous avez Pokémon rouge est 26e et Pokémon bleu est 35e quand même. Du coup, voilà. Bah écoutez, merci d'avoir participé. Et puis, je repasse le micro à Tizona pour conclure cette émission.
Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions toute l'équipe et Alvin, ainsi que Vincent pour la sélection musicale. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre Ko-fi, ça nous permettra de continuer à produire nos programmes et à vous proposer toujours plus de points de vue sur le jeu vidéo. Nous nous quittons sur Don't Flurry, composé par Hiroyuki Sawano pour l'OST de Xenoblade Chronicles Cross.
strifers. Miles and miles fly across our sky. Tonight's the time.